Les ménages parisiens sont dévorés par le besoin de se mettre en harmonie avec le luxe qui les environne de toutes parts. Aussi en est-il peu qui aient la sagesse de conformer leur situation extérieure à leur budget intérieur. Mais ce vice tient peut-être à un patriotisme tout français et qui a pour but de conserver à la France sa suprématie en fait de costume. La France règne par le vêtement sur toute l'Europe. Chacun y sent la nécessité de garder un spectre commercial qui fait de la mode en France ce qu'est la marine en Angleterre. Cette patriotique fureur qui porte à tout sacrifier au paroître, comme disait d'Aubigné sous Henri IV, est la cause de travaux secrets et immenses qui prennent toute la matinée des femmes parisiennes quand elles veulent, ainsi que le voulait Madame Rabourdin, tenir avec 12 000 livres de rente le train que beaucoup de riches ne se donnent pas avec 30 000. Ainsi, les vendredis, jour de dîner, Madame Rabourdin aidait la femme de chambre à faire les appartements car la cuisinière allait de bonne heure à la halle, et le domestique nettoyait l'argenterie, façonnait les serviettes, brossait les cristaux. Le malavisé, qui, par une distraction de la portière, serait monté vers 11 heures ou midi chez Madame Rabourdin, l'eût trouvé au milieu du désordre le moins pittoresque, en robe de chambre, les pieds dans de vieilles pantoufles, mal coiffées, arrangeant elle-même ses lampes, disposant elle-même ses jardinières, ou se cuisinant à la hâte un déjeuner peu poétique. Le visiteur à qui les mystères de la vie parisienne auraient été inconnus eut certes appris à ne pas mettre le pied dans les coulisses du théâtre. Bientôt signalé comme un homme capable des plus grandes noirceurs, la femme, surprise dans ses mystères du matin, aurait parlé de sa bêtise et de son indiscrétion de manière à le ruiner. La parisienne, si indulgente pour les curiosités qui lui profitent, est implacable pour celles qui lui font perdre ses prestiges. Aussi, une pareille invasion domiciliaire n'est-elle pas, comme dit la police correctionnelle, une attaque à la pudeur, mais un vol avec effraction, le vol de ce qu'il y a de plus précieux, le crédit. Une femme se laisse volontiers surprendre, peu vêtue, les cheveux tombants. Quand tous ses cheveux sont à elle, elle y gagne, mais elle ne veut pas se laisser voir faisant elle-même son appartement. Elle y perd son paroître. Madame Rabourdin était dans tous les apprêts de son vendredi au milieu des provisions pêchées par sa cuisinière dans l'océan de la halle, alors que M. Delupeau se rendit sournoisement chez elle. Certes, le secrétaire général était bien le dernier que la belle Rabourdin attendit, aussi, en entendant craquer des bottes sur le palier, s'écria-t-elle
« Déjà le coiffeur !»
Exclamation aussi peu agréable pour Delupeau que la vue de Delupeau le fut pour elle. Elle se sauva donc dans sa chambre à coucher où régnait un effroyable gâchis de meubles qui ne veulent pas être vus, des choses hétérogènes en fait d'élégance, un vrai mardi gras domestique. L'effronté Delupeau suivit la belle effarée tant il la trouva piquante dans son déshabillé. Je ne sais quoi d'alléchant tenter le regard. La chair vue par un hiatus de camisole semblait 1000 fois plus attrayante que quand elle se bombait gracieusement depuis la ligne circulaire tracée sur le dos par le surjet de velours, jusqu'aux rondeurs fuyantes du plus joli col de cygne où jamais un amant ait pu poser son baiser avant le bal. Quand l'œil se promène sur une femme parée qui montre une magnifique poitrine, ne croit-on pas voir le dessert monté de quelques beaux dîners? Mais le regard qui se coule entre l'étoffe froissée par le sommeil embrasse des coins friands et s'en régale comme on dévore un fruit volé qui rougit entre deux feuilles sur l'espalier. « Attendez, attendez !» cria la jolie parisienne en verrouillant son désordre. Elle sonna Thérèse, sa fille, la cuisinière, le domestique, implorant un châle et souhaitant le coup de sifflet du machiniste à l'opéra. Et le coup de sifflet partit. Et en un tour de main, autre phénomène, la chambre prit un air de matin fort piquant, en harmonie avec une toilette subitement combinée pour la plus grande gloire de cette femme, évidemment supérieure en ceci.
« Vous, dit-elle, et à cette heure, que se passe-t-il donc ?»«
Les choses les plus graves du monde, répondit Delupeau, il s'agit aujourd'hui de bien nous comprendre. » Célestine regarda cet homme à travers ses lunettes et comprit. « Mon principal vice, répondit-elle, est d'être prodigieusement fantasque. Ainsi, je ne mêle pas mes affections à la politique. Parlons politique affaires, et nous verrons après. » Ce n'est pas d'ailleurs une fantaisie, mais une conséquence de mon goût d'artiste qui me défend de faire hurler les couleurs, d'allier des choses disparates et m'ordonne d'éviter les dissonances. Nous avons notre politique aussi, nous autres femmes. Déjà, le son de la voix, la gentillesse des manières avaient produit leur effet et métamorphosé la brutalité du secrétaire général en courtoisie sentimentale. Elle l'avait rappelé à ses obligations d'amant. Une jolie femme habile se fait comme une atmosphère où les nerfs se détendent, où les sentiments s'adoucissent.
Vous ignorez ce qui se passe, reprit brutalement des Lupeaulx qui tenait à se montrer brutal. Lisez. Et il offrit à la gracieuse Rabourdin les deux journaux où il avait entouré chaque article en encre rouge. En lisant, le châle se décroisa sans que Célestine s'en aperçût ou par l'effet d'une volonté bien déguisée. À l'âge où la force des fantaisies est en raison de leur rapidité, des Lupeaulx ne pouvait pas plus garder son sang-froid que Célestine ne gardait le sien. « Comment, dit-elle, mais c'est affreux, qu'est-ce que ce baudoyer ?»« Un baudet, fit des Lupeaulx, mais, vous le voyez, il porte des reliques et arrivera, conduit par la main habile qui tient la bride. » Le souvenir de ses dettes passa devant les yeux de Madame Rabourdin et l'éblouit comme si elle eût vu deux éclairs consécutifs. Ses oreilles tintèrent à coups redoublés sous la pression du sang qui battait dans ses artères. Elle resta tout hébétée, regardant une patère sans la voir. « Mais vous nous êtes fidèle, dit-elle à des Lupeaulx en le caressant d'un coup d'œil de manière à se l'attacher. « C'est selon, fit-il en répondant à cette œillade par un regard inquisitif qui fit rougir cette pauvre femme. « S'il vous faut des arts, vous perdriez tout le prix, dit-elle en riant. « Je vous faisais plus grand que vous ne l'êtes, et vous, vous me croyez bien petite, bien pensionnaire. « Vous ne m'avez pas compris, reprit-il d'un air fin. « Je voulais dire que je ne pouvais pas servir un homme qui joue contre moi comme l'étourdi contre Mascarille. « Que signifie ceci ?»« Voici qui vous prouvera que je suis grand. » Et il présenta à Madame Rabourdin l'état volé par du toc, en le lui offrant à l'endroit où son mari l'avait analysé si savamment. « Lisez. » Célestine reconnut l'écriture, lut et pâlit sous ce coup d'assommoir. « Toutes les administrations y sont, » dit des Lupeaulx. « Mais heureusement, dit-elle, vous seul possédez ce travail que je ne puis m'expliquer. » « Celui qui l'a volé n'est pas signé que de ne pas en avoir un double. Il est trop menteur pour l'avouer et trop intelligent dans son métier pour le livrer. Je n'ai même pas tenté d'en parler. « Qui est-ce ? Votre commis principal. » « Dutoc, on n'est jamais puni que de ses bienfaits. Mais, reprit-elle, c'est un chien qui veut un os. « Savez-vous ce qu'on veut m'offrir à moi, pauvre diable de secrétaire général ?»« Quoi ? Je dois 30 et quelques malheureux 1000 francs, vous allez prendre une bien méchante opinion de moi en sachant que je ne dois pas davantage, mais enfin, en cela je suis petit. Eh bien, l'oncle de Baudoyer vient d'acheter mes créances, et sans doute se dispose à m'en rendre les titres. Mais c'est infernal tout cela. Du tout, c'est monarchique et religieux, car la grande aumônerie s'en mêle. Que ferez-vous ? « Que m'ordonnez-vous de faire ? » dit-il avec une grâce adorable, en lui tendant la main. Célestine ne le trouva plus ni laid, ni vieux, ni poudré à frimas, ni secrétaire général, ni quoi que ce soit d'immonde, mais elle ne lui donna pas la main. Le soir, dans son salon, elle la lui aurait laissé prendre 100 fois, mais le matin et seul, le geste constituait une promesse un peu trop positive et pouvait mener loin. « Et l'on dit que les hommes d'État n'ont pas de cœur, s'écria-t-elle en voulant compenser la dureté du refus par la grâce de la parole. « Cela m'effrayait, ajouta-t-elle en prenant l'air le plus innocent du monde. « Quelle calomnie, répondit des Lupeaulx, un des plus immobiles diplomates et qui garde le pouvoir depuis qu'il est né, vient d'épouser la fille d'une actrice et de la faire recevoir à la cour la plus ferrée sur les quartiers de noblesse. « Et vous nous soutiendrez ? Je fais le travail des nominations, mais pas de tricherie. » Elle lui tendit sa main à baiser et lui donna un petit soufflet sur la joue. « Vous êtes à moi, dit-elle. » Des Lupeaulx admira ce mot. Le soir à l'opéra, le fat le raconta de cette manière. Une femme ne voulant pas dire à un homme qu'elle était à lui, aveu qu'une femme comme il faut ne fait jamais, lui a dit « Vous êtes à moi. Comment trouvez-vous le détour ?»« Mais soyez mon allié, reprit-il. Votre mari a parlé au ministre d'un plan d'administration auquel se rattache l'état dans lequel je suis si bien traité. » « Sachez-le, dites-le-moi ce soir. » « Ce sera fait, dit-elle, sans voir grande importance à ce qui avait amené des Lupeaulx chez elle si matin. « Madame, le coiffeur, dit la femme de chambre. « Il s'est bien fait attendre, je ne sais pas comment je m'en serais tiré s'il avait tardé, pensa Célestine. « Vous ne savez pas jusqu'où va mon dévouement, lui dit des Lupeaulx en se levant. « Vous serez invité à la première soirée particulière de la femme du ministre. » « Ah, vous êtes un ange, dit-elle, et je vois maintenant combien vous m'aimez avec intelligence. » « Ce soir, cher enfant, reprit-il, j'irai savoir à l'opéra quels sont les journalistes qui conspirent pour Baudoyer, et nous mesurerons nos bâtons. « Oui, mais vous dînez ici, n'est-ce pas ? J'ai fait chercher et trouver les choses que vous aimez. »
Tout cela cependant ressemble tant à l'amour qu'il serait doux d'être longtemps trompé ainsi, se dit des Lupeaulx, en descendant les escaliers. Mais si elle se moque de moi, je le saurai. Je lui prépare le plus habile de tous les pièges avant la signature, afin de pouvoir lire dans son cœur. Mes petites chattes, nous vous connaissons, car après tout, les femmes sont tout ce que nous sommes. 28 ans et vertueuse, et ici, rue du Faux, c'est un bonheur bien rare qui vaut la peine d'être cultivé. Le papillon éligible sautillait par les escaliers. Mon Dieu, cet homme-là, sans ses lunettes poudrées, doit être bien drôle en robe de chambre, se disait Célestine. Il a le harpon dans le dos et me remorque enfin là où je voulais aller, chez le ministre. Il a joué son rôle dans ma comédie.
Quand à 5 heures Rabourdin rentra pour s'habiller, sa femme vint assister à sa toilette et lui apporta cet état que, comme la pantoufle du comte des 1001 nuits, le pauvre homme devait rencontrer partout. Qui t'a remis cela? Dit Rabourdin stupéfait. Monsieur des Lupeaulx. Il est venu, demanda Rabourdin en jetant à sa femme un de ces regards qui certes aurait fait pâlir une coupable, mais qui trouva un front de marbre et un œil rieur. « Et il reviendra dîner, » répondit-elle. « Pourquoi votre air effarouché ?»« Ma chère, » dit Rabourdin, « des Lupeaulx est mortellement offensé par moi. Ces gens-là ne pardonnent pas et ils me caressent. Crois-tu que je ne vois pas pourquoi ?»« Cet homme, » reprit-elle, « me paraît avoir un goût très délicat et je ne puis le blâmer. » Enfin, je ne sais rien de plus flatteur pour une femme que de réveiller un palais blasé. Après, trêve de plaisanterie, Célestine. Épargne un homme accablé. Je ne puis rencontrer le ministre et mon honneur est en jeu.
Mon Dieu, non. Dutoc aura la promesse d'une place et tu seras nommé chef de division.
Je te devine, cher enfant, dit Rabourdin, mais le jeu que tu joues est aussi déshonorant que la réalité. Le mensonge est le mensonge et une honnête femme. Laisse-moi donc me servir des armes employées contre nous.
Célestine. Plus cet homme se verra sottement pris au piège, plus il s'acharnera sur moi.
Et si je le renverse ? Rabourdin regarda sa femme avec étonnement.
Je ne pense qu'à ton élévation, et il était temps, mon pauvre ami, reprit Célestine.
Mais tu prends le chien de chasse pour le gibier, dit-elle après une pause. Dans quelques jours, des Lupeaulx aura très bien accompli sa mission. Pendant que tu cherches à parler au ministre, et avant que tu ne puisses le voir, moi je lui aurai parlé. Tu as sué sang et eau pour enfanter un plan que tu me cachais, et en 3 mois ta femme aura fait plus d'ouvrages que toi en 6 ans. Dis-moi ton beau système. Rabourdin, tout en se faisant la barbe et après avoir obtenu de sa femme de ne pas dire un seul mot de ses travaux, en la prévenant que confier une seule idée à des Lupeaulx c'était mettre le chat à même la jatte de lait, commença l'explication de ses travaux.
Comment, Rabourdin, ne m'as-tu pas parlé de cela? Dit Célestine en coupant la parole à son mari dès la 5e phrase. « Mais tu te serais épargné des peines inutiles. Que l'on soit aveuglé pendant un moment par une idée, je le conçois. Mais pendant 6 ou 7 ans, voilà ce que je ne conçois pas. Tu veux réduire le budget, c'est l'idée vulgaire et bourgeoise. Mais il faudrait arriver à un budget de 2 milliards, la France serait 2 fois plus grande. Un système neuf, ce serait de tout faire mouvoir par l'emprunt, comme le crie Monsieur de Nucingen. » Le trésor le plus pauvre est celui qui se trouve plein d'écus sans emploi. La mission d'un ministère des Finances est de jeter l'argent par les fenêtres, il lui rentre par ses caves, et tu veux lui faire entasser des trésors. Mais il faut multiplier les emplois au lieu de les réduire. Au lieu de rembourser les rentes, il faudrait multiplier les rentiers. Si les Bourbons veulent régner en paix, ils doivent créer des rentiers dans les dernières bourgades, et surtout ne pas laisser les étrangers toucher des intérêts en France. Car ils nous en demanderont un jour le capital, tandis que si toute la rente est en France, ni la France ni le crédit ne périront. Voilà ce qui a sauvé l'Angleterre. Ton plan est un plan de petite bourgeoisie. Un homme ambitieux n'aurait dû se présenter devant son ministre qu'en recommençant l'eau sans ses chances mauvaises, en expliquant la puissance du crédit, en démontrant comme quoi nous ne devons pas amortir le capital, mais les intérêts, comme font les Anglais. « Allons, Célestine, dit Rabourdin, mêle toutes les idées ensemble, contrarie-les, abuse-t'en comme de joujoux, je suis habitué à cela, mais ne critique pas un travail que tu ne connais pas encore. « Ai-je besoin, dit-elle, de connaître un plan dont l'esprit est d'administrer la France avec 6 000 employés au lieu de 20 000 ?»« Mais mon ami, fût-ce un plan d'homme de génie, un roi de France se ferait détrôner en voulant l'exécuter. » On soumet une aristocratie féodale en abattant quelques têtes, mais on ne soumet pas une hydre à 1000 pattes. Non, l'on n'écrase pas les petits, ils sont trop plats sous le pied. Et c'est avec les ministres actuels, entre nous de pauvres sires, que tu veux remuer ainsi les hommes. Mais on remue les intérêts et l'on ne remue pas les hommes. Ils crient trop tandis que les écus sont muets. Mais Célestine, si tu parles toujours, et si tu fais de l'esprit à côté de la question, nous ne nous entendrons jamais. Ah, je comprends à quoi mène l'état où tu as classé les capacités administratives, reprit-elle, sans avoir écouté son mari. Mon Dieu, mais tu as aiguisé toi-même le couperet pour te faire trancher la tête, sainte Vierge. Pourquoi ne m'as-tu pas consulté? Au moins, je t'aurais empêché d'écrire une seule ligne, tout au moins, si tu avais voulu faire ce mémoire, je l'aurais copié moi-même et il ne serait jamais sorti d'ici. Pourquoi, mon Dieu, ne m'avoir rien dit? Voilà les hommes. Ils sont capables de dormir auprès d'une femme en gardant un secret pendant 7 ans. Se cacher d'une pauvre femme pendant 7 années, douter de son dévouement. Mais, dit Rabourdin impatienté, voici 11 ans que je n'ai jamais pu discuter avec toi sans que tu me coupes la parole et sans substituer aussitôt tes idées aux miennes. Tu ne sais rien de mon travail. Rien? Je sais tout. Dis-le-moi donc, s'écria Rabourdin impatienté pour la première fois depuis son mariage. Tiens, il est 6h30, fais ta barbe, habille-toi, répondit-elle, comme répondent toutes les femmes quand on les presse sur un point où elles doivent se taire. Je vais achever ma toilette et nous ajournerons la discussion, car je ne veux pas être agacé le jour où je reçois. Mon Dieu, le pauvre homme, dit-elle en sortant, travailler 7 ans pour accoucher de sa mort et se défier de sa femme. Elle rentra. Si tu m'avais écouté dans le temps, tu n'aurais pas intercédé pour conserver ton commis principal? Et il a sans doute une copie autographiée de ce maudit état. Adieu, homme d'esprit. En voyant son mari dans une tragique attitude de douleur, elle comprit qu'elle était allée trop loin. Elle courut à lui, le saisit tout barbouillé de savon, et l'embrassa tendrement. « Cher Xavier, ne te fâche pas, lui dit-elle. Ce soir, nous étudierons ton plan, tu parleras à ton aise, j'écouterai bien, et aussi longtemps que tu le voudras. Est-ce gentil? Va, je ne demande pas mieux que d'être la femme de Mahomet. » Elle se mit à rire, Rabourdin ne put s'empêcher de rire aussi, car Célestine avait de la mousse blanche aux lèvres, et sa voix avait déployé les trésors de la plus pure et de la plus solide affection. « Va t'habiller, mon enfant, et surtout ne dis rien à des lupeaux, jure-le-moi, voilà la seule pénitence que je t'impose. »« Impose ? » dit-elle. « Alors je ne jure rien. »« Allons, Célestine, j'ai dit en riant une chose sérieuse. » « Ce soir, répondit-elle, ton secrétaire général saura qui nous avons à combattre, et moi je sais qui attaquer. »« Qui ?» dit Rabourdin. « Le ministre, répondit-elle, en se grandissant de 2 pieds. »
Malgré la grâce amoureuse de sa chère Célestine, Rabourdin, en s'habillant, ne put empêcher quelques douloureuses pensées d'obscurcir son front. « Quand saura-t-elle m'apprécier ?» se disait-il. « Elle n'a pas même compris qu'elle seule était la cause de tout ce travail. Quelle brise-raison et quelle intelligence !» Si je ne m'étais pas marié, je serais déjà bien haut et bien riche. J'aurais économisé 5 000 francs par an sur mes appointements. En les employant bien, j'aurais aujourd'hui 10 000 livres de rente en dehors de ma place. Je serais garçon et j'aurais la chance de devenir par un mariage. Oui, reprit-il en s'interrompant, mais j'ai Célestine et mes 2 enfants. Il se rejeta sur son bonheur. Dans le plus heureux ménage, il y a toujours des moments de regret. Il vint au salon et contempla son appartement. Il n'y a pas dans Paris 2 femmes qui s'entendent à la vie comme elle. Avec 12 000 livres de rente, faire tout cela, dit-il en regardant les jardinières pleines de fleurs et songeant aux jouissances de vanité que le monde allait lui donner. Elle était faite pour être la femme d'un ministre. Quand je pense que celle du mien ne lui sert à rien, elle a l'air d'une grosse bourgeoise et quand elle se trouve au château, dans les salons, il se pinça les lèvres. Les hommes très occupés ont des idées si fausses en ménage qu'on peut également leur faire croire qu'avec 100 000 francs, on n'a rien, et qu'avec 12 000 francs, on a tout. Quoique très impatiemment attendu, malgré les flatteries préparées pour ses appétits de gourmet émérite, Deslupeaux ne vint pas dîner. Il ne se montra que très tard dans la soirée, à minuit, heure à laquelle la causerie devient, dans tous les salons, plus intime et confidentielle. En doge finaux, le journaliste était resté. « Je sais tout, » dit Deslupeaux, quand il fut bien assis sur la causeuse au coin du feu, sa tasse de thé à la main, Madame Rabourdin debout devant lui, tenant une assiette pleine de sandwichs et de tranches d'un gâteau bien justement nommé « gâteau de plomb ».« Finot, mon cher et spirituel ami, vous pourrez rendre service à notre gracieuse reine en lâchant quelques chiens après des hommes de qui nous causerons. » « Vous avez contre vous, dit-il à M. Rabourdin en baissant la voix pour n'être entendu que des 3 personnes auxquelles il s'adressait, des usuriers et le clergé. l'argent et l'Église. L'article du journal libéral a été demandé par un vieil escompteur à qui l'on avait des obligations, mais le petit bonhomme qui l'a fait s'en soucie peu. La rédaction en chef de ce journal change dans 3 jours, et nous reviendrons là-dessus. L'opposition royaliste, car nous avons, grâce à M. de Chateaubriand, une opposition royaliste, c'est-à-dire qu'il y a des royalistes qui passent aux libéraux, mais ne faisons pas de haute politique. Ces assassins de Charles X m'ont promis leur appui en mettant pour prix à votre nomination notre approbation à un de leurs amendements. Toutes mes batteries sont dressées. Si l'on nous impose Baudoyer, nous disons à la grande aumônerie, tel et tel journal et messieurs tel et tel, attaqueront la loi que vous voulez et toute la presse sera contre. Car les journaux ministériels que je tiens seront sourds et muets. Ils n'auront pas de peine à l'être, ils le sont assez. N'est-ce pas, Finot ? Nommez Rabourdin et vous aurez l'opinion pour vous. Pauvre Boniface de gens de province qui se carrent dans leur fauteuil au coin du feu, très heureux de l'indépendance des organes de l'opinion. Ah ah ! Hi 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 ! Fit Andoche Finot. Ainsi, soyez tranquille, dit des Lupeaux, j'ai tout arrangé ce soir. La grande aumônerie pliera. J'aurais mieux aimé perdre tout espoir et vous voir à dîner, lui dit Célestine à l'oreille, en le regardant d'un air fâché qui pouvait passer pour l'expression d'un amour fou. « Voici qui m'obtiendra ma grâce, reprit-il, en lui remettant une invitation pour la soirée de mardi. » Célestine ouvrit la lettre, et le plaisir le plus rouge anima ses traits. Aucune jouissance ne peut se comparer à celle de la vanité triomphante. « Vous savez que c'est la soirée du mardi, reprit des Lupeaux en prenant un air mystérieux. C'est dans notre ministère comme le petit château à la cour. Vous serez au cœur du pouvoir. » Il y aura la comtesse Ferraud, qui est toujours en faveur malgré la mort de Louis XVIII, Delphine de Nucingen, madame de Listomère, la marquise d'Épart, votre chère de Caen que j'ai priée afin que vous trouviez un appui dans le cas où les femmes vous blackballeraient. Je veux vous voir au milieu de ce monde-là. Célestine hochait la tête comme un pur sang avant la course et relisait l'invitation comme Baudoyer et Saillard avaient relu leurs articles dans les journaux, sans pouvoir s'en rassasier. « Là d'abord et un jour aux Tuileries, » dit-elle à des Lupeaux. Des Lupeaux fut effrayé du mot et de l'attitude tant ils exprimaient d'ambition et de sécurité. « Ne serais-je qu'un marchepied, » se dit-il. Il se leva, s'en alla dans la chambre à coucher de Madame Rabourdin, et y fut suivi par elle, car elle avait compris à un geste du secrétaire général qu'il voulait lui parler en secret. « Eh bien le plan, » dit-il. « Bah, des bêtises d'honnête homme !» Il veut supprimer 15 000 employés et n'en garder que 5 ou 6 000. Vous n'avez pas idée d'une monstruosité pareille. Je vous ferai lire son mémoire quand la copie en sera terminée. Il est de bonne foi. Son catalogue analytique des employés a été dicté par la pensée la plus vertueuse. Pauvre cher homme. Des Lupeaux fut d'autant plus rassuré par le rire vrai qui accompagnait ses railleuses et méprisantes paroles qu'il se connaissait en mensonge et que, pour le moment, Célestine était de bonne foi. « Mais enfin, le fond de tout cela » demanda-t-il. « Eh bien, il veut supprimer la contribution foncière en la remplaçant par des impôts de consommation. Mais il y a déjà un an que François Keller et Nucingen ont proposé un plan à peu près semblable, et le ministre médite de dégrever l'impôt foncier. Là, quand je lui disais que ce n'était pas neuf, s'écria Célestine en riant. « Oui, mais s'il s'est rencontré avec le plus grand financier de l'époque, un homme qui, je vous le dis entre nous, est le Napoléon de la finance, » Il doit y avoir au moins quelques idées dans ses moyens d'exécution. Tout est vulgaire, fit-elle en imprimant à ses lèvres une moue dédaigneuse. Songez donc qu'il veut gouverner et administrer la France avec 5 ou 6 000 employés, tandis qu'il faudrait au contraire qu'il n'y eût pas en France une seule personne qui ne fût intéressée au maintien de la monarchie. Des Lupeaux parut satisfait de trouver un homme médiocre dans l'homme auquel il accordait des talents supérieurs. Êtes-vous bien sûr de la nomination ? Voulez-vous un conseil de femme, lui dit-elle. « Vous entendez mieux que nous en trahison élégante, » fit des Lupeaux en hochant la tête. « Eh bien, dites Baudoyer à la cour et à la grande aumônerie, pour leur ôter tout soupçon et les endormir, mais au dernier moment écrivez Rabourdin. Il y a des femmes qui disent oui tant qu'on a besoin d'un homme, et non quand il a joué son rôle, » répondit des Lupeaux. « J'en connais, » dit-elle en riant, « mais elles sont bien sottes, car en politique on se retrouve toujours. C'est bon avec les niais et vous êtes un homme d'esprit. » Selon moi, la plus grande faute qu'on puisse commettre dans la vie est de se brouiller avec un homme supérieur. Non, dit des Lupeaux, car il pardonne. Il n'y a de danger qu'avec de petits esprits rancuneux qui n'ont pas autre chose à faire qu'à se venger. Et je passe ma vie à cela. Quand tout le monde fut parti, Rabourdin resta chez sa femme, et après avoir exigé pour une seule fois son attention, il put lui expliquer son plan en lui faisant comprendre qu'il ne restreignait point et augmentait au contraire le budget, en lui montrant à quels travaux s'employaient les deniers publics, en lui expliquant comment l'État décuplait le mouvement de l'argent en faisant entrer le sien pour un tiers ou pour un quart dans les dépenses qui seraient supportées par les intérêts privés ou de localité. Enfin, il lui prouva que son plan était moins une œuvre de théorie qu'une œuvre fertile en moyens d'exécution. Célestine, enthousiasmée, sauta au cou de son mari et s'assit au coin du feu sur ses genoux. « Enfin, j'ai donc en toi le mari que je rêvais, » dit-elle. « L'ignorance où j'étais de ton mérite t'a sauvé des griffes de Délupeau. Je t'ai calomnié merveilleusement et de bon cœur. » Cet homme pleura de bonheur. Il avait donc enfin son jour de triomphe. Après avoir tout entrepris pour plaire à sa femme, il était grand aux yeux de son seul public. « Et pour qui te connaît si bon, si doux, si égal de caractère, si aimant, tu es 10 fois plus grand. Mais, dit-elle, un homme de génie est toujours plus ou moins enfant. Et tu es un enfant bien-aimé. » Elle tira son invitation de l'endroit où les femmes mettent ce qu'elles veulent cacher et la lui montra. « Voilà ce que je voulais, dit-elle. Délupeau m'a mise en présence du ministre, et fut-il de bronze, cette excellence sera pendant quelque temps mon serviteur. »